Alors juste une petite annonce, parce que j'ai commencé à écluser les fiches que vous avez écrites la semaine dernière et rendues la semaine dernière. Parmi certains d'entre vous, il y a des gens qui ont validé, enfin qui me disent avoir validé cet enseignement l'année dernière, donc qui ont eu la moyenne ici, et qui viennent malgré tout. Alors je vous... Oui voilà, c'est très gentil, mais j'aimerais être sûr qu'en fait vous avez bien compris le système en question, c'est-à-dire que si vous avez validé cette UV, mais que vous n'avez pas validé le grand bloc qui fait Kwame Nespoulous, parce que vous vous êtes éventuellement planté chez Nathalie Kwame, vous n'êtes pas obligé de revenir ici. Vous n'êtes pas obligé de revalider cet enseignement-là. Hein. Vous l'avez eu, vous l'avez eu. C'est acquis, c'est acquis. Vous n'avez pas besoin de refaire tout le bloc. Donc, ceci étant, il y a de la place, vous pouvez venir, hein, comme disait l'autre, s'échauffer. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu perturber le programme que je vous avais proposé la dernière fois, puisqu'en réalité, je vous avais dit qu'on finirait par la bibliographie, hein, grosso modo. Aujourd'hui, on va finir par la bibliographie, mais en fait, après vous avoir présenté assez rapidement, sous l'angle de la terminologie en réalité, hein, le cadre historique japonais, le cadre historique tout court et le cadre historique japonais en particulier, j'aimerais qu'on parle de la bibliographie, puisqu'après tout, le temps nous est compté d'ici à janvier, et que j'ai mis à jour la bibliographie, elle est téléchargeable sur le site internet dont je vous ai parlé la semaine dernière, hein, donc japetno.info, vous vous souvenez. La bibliographie est téléchargeable, elle fait 3 pages. À l'intérieur de cette bibliographie, il y a 3 ouvrages que je qualifie d'obligatoires, ce sont ceux qui sont soulignés. Il y a des ouvrages que j'estime indispensables, mais qui ne sont pas obligatoires à la lecture pour valider cet enseignement, qui sont marqués d'un astérisque. Indispensable parce que j'estime que, quand on veut avoir une connaissance, pas forcément spécialisée, mais une bonne connaissance globale du champ d'étude de l'histoire sur l'époque contemporaine, il y a un certain nombre d'ouvrages qu'il vaut mieux avoir lus, et donc je les ai portés dans cette bibliographie. Vous verrez que ce sont souvent des ouvrages d'histoire générale, donc l'histoire du monde. Il y a aussi des ouvrages d'histoire de la colonisation, des ouvrages d'histoire sur les régimes autoritaires, tout un tas donc de livres qui débroussaillent certains concepts, certains outils conceptuels qu'on utilise donc pas mal à l'université, des ouvrages qui théoriquement devraient vous aider à comprendre beaucoup de choses qui vont vous être dites d'ici à 3 ans. Donc ce n'est pas des livres à lire absolument pour ces 6 mois, hein, c'est des livres que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que ce n'est pas plus mal si vous arrivez à vous faire un bon programme de lecture autour de tous ces ouvrages. Vous verrez, il y en a beaucoup, hein, donc j'ai peut-être un peu exagéré, mais comme je vous dis, ce n'est pas obligatoire, donc vous en ferez quoi bon vous semble. Et je pense que la séance se terminera là-dessus. La semaine prochaine, par ailleurs, on attaquera donc ce que je vous avais évoqué la dernière fois, en parlant rapidement d'orientalisme, on attaquera la question de la représentation qu'on se fait de l'Orient, de l'Extrême-Orient et du Japon, depuis l'angle d'attaque occidental. Donc, un petit peu une histoire de l'orientalisme, depuis l'Antiquité à nos jours, quoi, si on veut. Hein. Comment est-ce qu'on voit l'Orient? Comment est-ce qu'on voit ces territoires sont situés dans les brumes les plus éloignées à l'Orient de l'Europe, et qu'est-ce que finalement il y a comme enseignement à tirer de ces différentes représentations qu'on a pu se faire de l'Extrême-Orient. Je pense qu'il y a beaucoup d'observations qui, même si elles remontent à l'époque par exemple de Marco Polo sur la manière qu'on a de se représenter l'altérité, sont toujours valables de nos jours quand il s'agit de justifier le fait de dire n'importe quoi quand c'est très loin de chez nous. Mais donc avant tout, je vais commencer par vous parler de ces cadres historiques qu'on va utiliser tout au long de l'année et puis qui vous serviront de toute manière tout au long de votre scolarité dès que vous aurez affaire à des enseignants en sciences humaines et sociales. En fait, le diaporama, il est rigolo, mais en soi, il n'a pas d'utilité. C'était surtout pour vérifier que ça marchait bien, la technique ici. parce que j'ai l'intention de vous montrer d'autres diaporamas qui ont vraiment un sens sur le plan pédagogique, et pas des diaporamas, mais des films. J'aimerais bien vous montrer des documents vidéo. Ben, ça, c'est toujours aussi, si on a le temps, parce qu'en 1h30, c'est pas évident de regarder des films complets. Quoi. Donc, diaporama, ouais, ça marche. Je suis content. Alors d'abord, quelques notions de périodisation en histoire. Donc j'insiste bien sur le « en histoire », c'est-à-dire que chaque discipline a en gros sa façon de diviser le temps. C'est légitime, en histoire de l'art, art moderne ne veut pas dire la même chose que époque moderne en histoire. Bon, c'est comme ça, chaque discipline a un petit peu sa terminologie chronologique. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la terminologie chronologique en histoire. Et je vais commencer à rebours, puisqu'on a un cours de Japon contemporain, donc je commencerai par Japon contemporain pour l'histoire générale. Donc je vais d'abord vous parler d'histoire générale, des concepts qui la sous-tendent, et après on parlera du cas du Japon en particulier. Donc le monde contemporain, ce qu'on appelle l'époque contemporaine, je vous ai dit la dernière fois, c'est pas les 20 dernières années, ça commence, dans le cas de l'Europe, avec la Révolution française, avec finalement... la fin des monarchies, de la fin de la monarchie absolue dans le cas français, et puis ensuite en Europe. Donc ça démarre avec la Révolution française en Europe de l'Ouest, et ça se poursuit jusqu'à nos jours. On vit toujours l'époque contemporaine de nos jours. Seulement, on a tendance à opérer une pause quand il s'agit d'époque contemporaine avec 1945, c'est-à-dire l'après-guerre. Pour des raisons qui sont assez difficiles à... J'aimerais le silence, s'il vous plaît. Pour des raisons qui sont assez difficiles à expliquer, par contre, c'est facile d'expliquer pourquoi c'est difficile à expliquer. Après 1945, d'abord, il y a beaucoup de choses qui changent. Dans le cas du Japon, c'est la fin de l'Empire colonial, d'une part, par exemple. Donc déjà, l'après-guerre, dans le cas du Japon, n'a pas le même sens que dans le cas de la France. Dans le cas du Japon, l'après-guerre, c'est la défaite contre les États-Unis et la perte de l'Empire colonial. Dans le cas de la France, l'après-guerre, c'est la libération, d'une part, mais c'est pas la chute de l'Empire colonial. Il va falloir encore attendre des décennies pour que la France n'ait plus d'Empire colonial. Par conséquent, l'après-guerre... est simplement une indication chronologique, c'est difficile de lui donner un sens global à l'intérieur des temps contemporains. Donc on a tendance à parler d'histoire immédiate, d'époque actuelle. Il n'y a pas en fait une terminologie arrêtée pour les temps d'après 1945. Donc ça a beau se situer dans le continuum de l'histoire contemporaine, après 1945, on échappe un petit peu à la terminologie historienne, et pour la simple et bonne raison, c'est que c'est encore relativement proche de nous, et que les catégories, les constructions d'analyse des historiens sont encore, finalement, non pas à construire, parce qu'on a déjà des modèles, mais à vérifier. On est encore dans un processus de vérification des catégories qu'on a élaborées dans les années 60, les années 70, les années 80. Avant l'époque contemporaine, vous avez ce qu'on appelle l'époque moderne en histoire. Donc, l'époque moderne, c'est pas aujourd'hui. L'époque moderne, d'un point de vue paradoxal, c'est toute l'époque qui s'étend entre la Renaissance et la fin de la monarchie absolue en France. Ça peut paraître une catégorie franco-française, mais il se trouve qu'en Europe continentale, on reprend ces catégories. Donc c'est pas franco-français, si vous voulez. D'une manière générale, la Renaissance, bon alors la Renaissance c'est une chose, les temps modernes, l'époque contemporaine, on a tendance à la faire commencer avec l'apparition de l'imprimerie. Donc souvent on prend comme repère chronologique, un peu symbolique, Gutenberg, si vous voulez. Mais bon, ça n'a pas de sens, c'est simplement histoire de dire que oui, qu'est-ce qu'il y a eu comme fait marquant, il y a eu l'invention de l'imprimerie. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Dans la transmission des savoirs, le fait de pouvoir mécaniser l'impression des ouvrages, on commence à pouvoir se passer des copistes, puisque jusque-là, c'était des gens qui recopiaient en fait les textes. Voilà, l'imprimerie donc change beaucoup de choses, mais pour moi, c'est pas ce qui fait des temps modernes, de l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir de l'époque contemporaine, c'est qu'en réalité, j'aime pas le terme de moderne, moi, en tant qu'historien, parce que c'est pas... c'est un terme qui n'a aucune vertu descriptive. Quand vous dites moderne, c'est relatif. C'est un jugement de valeur. Ça n'est pas une catégorie fixe. Moderne, ça, en soi, ne veut donc, si vous voulez, rien dire. Et alors pourquoi est-ce que les historiens utilisent quelque chose qui finalement a aussi peu de sens en soi? Bah, c'est relativement simple, c'est qu'en fait les historiens, ce ne sont pas eux qui ont inventé le terme, ce sont les gens de l'époque moderne, les gens de la Renaissance, qui se définissaient eux-mêmes comme modernes. Les temps modernes, ce sont les gens comme Montaigne, et au-delà, après Montaigne, qui se l'appliquaient à leur temps. Il y avait une vocation à vouloir être une époque moderne, par rapport à une époque que eux, donc modernes, donc, définissaient comme Moyen-Âge, donc le temps moyen, le Moyen-Âge, entre les temps antiques et les temps modernes. Époque qu'ils définissaient comme arriérée, avec un pouvoir éclaté, dont il ne fallait absolument pas s'inspirer, dont il fallait absolument, au contraire, s'éloigner. Donc, époque moderne, parce que les gens de cette époque-là se définissaient eux-mêmes comme modernes, et donc les historiens utilisent le terme d'époque moderne. C'est aussi simple que ça. Oui.
Je veux savoir, vous pouvez redonner la date du début de la Renaissance, s'il vous plaît.
Alors, d'un point de vue politique, ça commence avec le XVIe siècle. Hein. Il n'y a pas de date précise, hein, si vous voulez. C'est des dynamiques politiques, sociales. Donc, on commence avec le XVIe siècle. Où là, on a vraiment des constructions solides, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'est pas intéressant non plus, hein, mais... Donc voilà pour moderne. Donc après moderne, il y a le moyen. Avant moderne, il y a le Moyen Âge, qui est donc une construction là aussi des gens de l'époque moderne que les historiens à l'époque contemporaine ont décidé d'utiliser tel quel, en la redéfinissant, d'accord, mais en utilisant le terme. Le Moyen Âge, par définition, on le met à la fin de l'Empire romain. On le fait débuter à la fin de l'Empire romain. Au sens strict, on va dire que c'est le troisième siècle, si vous voulez, de notre ère. Mais là aussi, on peut discuter des catégories employées par les historiens. Enfin, c'est pas le lieu ici. Enfin, ceci dit, si vous voulez en parler, on pourra en parler après le cours. Hein. Mais l'Antiquité se termine au troisième siècle de notre ère, et par conséquent, à partir du troisième siècle de notre ère, s'enclenchent de nouvelles dynamiques socio-économiques, sociopolitiques, qui vont aller vers la construction d'un Moyen-Âge, la construction de la féodalité, laquelle se révèle dans toute sa splendeur, entre guillemets, après les Carolingiens. Et avant tout ça, il y a l'Antiquité. L'Antiquité, c'est une catégorie qui est variable, puisqu'elle ne touche pas que l'Europe de l'Ouest, là, hein, pour le coup. Si on se focalise sur la Gaule, sur l'exemple, on va dire, de l'Hexagone français, l'Antiquité, elle commence avec la conquête romaine, c'est-à-dire au milieu du 1er siècle avant notre ère. Mais sur le plan, on va dire, des idées qui vont essaimer au travers de l'Europe, l'Antiquité, c'est-à-dire la formation d'un État antique, elle commence avec l'exemple, le cas grec, au 8e siècle avant notre ère. Toujours en simplifiant, mais pour se donner des catégories quand même assez solides. Donc 8e siècle en Grèce, 5e siècle en Italie, 1er siècle en Gaule, si vous voulez, par la conquête romaine. Bon, ça, c'est des chronologies, c'est des repères chronologiques qui n'ont pas forcément de sens en eux-mêmes. Le sens, c'est aux historiens de le donner. C'est à nous, historiens, de donner le sens aux catégories qu'on veut utiliser au-delà simplement des gradients temporels que l'on fixe. Et pour parler... Oui, donc ça, je reviens là-dessus. J'avais oublié que j'avais un diaporama. Vous voyez, après le point, c'est au point. Donc ça, je l'ai dit, donc c'est pas la peine que... truc. Voilà. Sur cette question du sens, finalement, des époques, sur cette question du sens de l'histoire, alors là, la date, ça va pas. Il y a Bossuet qui explique qu'en fait, une époque en histoire, c'est quelque chose qui, d'un bloc, a un sens. Par conséquent, l'histoire, c'est pas quelque chose qu'on se contente de découper en tranches, c'est quelque chose qu'il faut ordonner. Voilà ce que ça veut dire, hein, dans le fond. Et qu'il faut l'ordonner, alors il ne fixe pas les critères, hein, bien sûr, mais il faut l'ordonner selon des critères que vont fixer les historiens, de manière à donner donc du sens. Et parfois même, on donne du sursens. Ça fait partie des travers de la discipline historique. Alors, à rebours, je vais commencer par l'Antiquité, puisqu'on a fini par l'Antiquité, je redémarre par l'Antiquité, je reviens vers les temps contemporains pour expliquer le sens de ces périodes, au-delà de leur découpage. L'Antiquité, ça correspond à la formation, et c'est très important, ça correspond à la formation première de l'État. L'État, c'est une organisation particulière du pouvoir politique. Généralement, quand on parle d'État, on implique que le pouvoir politique devient institutionnalisé, qu'il est organisé selon des bases plus rationnelles et qui échappe à la vindicte des individus. C'est le principe, c'est l'avantage, c'est l'intérêt des institutions, pouvoir échapper à la vindicte ou au lubie d'individus isolés. Après l'Antiquité, donc on va vers le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est la période où la logique, à l'inverse de l'Antiquité, est à la personnalisation du pouvoir politique, c'est-à-dire de l'institutionnalisation du pouvoir qu'on a vu pendant l'Antiquité, on va vers une repersonnalisation du pouvoir, laquelle est bien représentée par la féodalité, si vous voulez. Donc, si vous, en un sens, c'est... la disparition ou l'affaiblissement très conséquent de l'État. Vous suivez, ça va? Je vais pas trop vite quand je parle. Vous me dites, hein, quand vous avez des blocages. Oui?
Le Moyen-Âge, ça a par rapport aussi avec la religion?
Non, parce qu'en réalité, si on se base sur des catégories globales, dans le cas du Japon, il y a un Moyen-Âge, et la religion n'a rien à voir là-dedans.
Que la religion avait pris une place dans l'État et que justement
La religion prend une place dans l'État déjà dans l'Empire romain.
Ah, mais justement, c'est ça qui a fait que la courbe de croissance qu'il y avait dans l'Antiquité s'est stoppée justement.
C'est-à-dire que avant qu'on passe au christianisme, si vous voulez, hein, qui va vraiment devenir la religion du Moyen-Âge, là, pour le coup, il y a déjà de toute façon dans l'Antiquité depuis plusieurs siècles. À partir du moment où on est passé au système impérial, c'est-à-dire que la République romaine est morte, hein, la République romaine est morte, on passe au système impérial, on passe dans un système de justification et de légitimation de l'empereur qui va jouer sur le ressort religieux. Et cette utilisation, hein, de la religion à des fins de légitimation du pouvoir politique n'a pas de rapport direct avec le Moyen-Âge. Ça ne veut pas dire qu'au Moyen-Âge, on ne va pas continuer à jouer de ces modalités, hein. Je veux dire, chaque seigneur dans son fief a besoin d'avoir dans la poche des hommes d'église qui... Mais le ressort en lui-même n'est pas un ressort propre au Moyen-Âge. C'est pas ça qui fait, si vous voulez, le Moyen-Âge, même si évidemment on le voit bien en France, hein, le Moyen-Âge est vraiment une époque d'explosion du fait religieux. Ça c'est certain, il y a des églises partout, bon. Mais disons que ça fait partie... des effets collatéraux, certes très voyants, de la société féodale, du Moyen-Âge. Donc voilà pour préciser. Et j'en étais où? À l'époque moderne, voilà. Et donc on en vient à l'époque moderne. L'époque moderne, au-delà donc de dire c'est la Renaissance, c'est les livres imprimés, ce genre de choses, c'est surtout une période, je le sous-entendais tout à l'heure, qui remet en question la légitimité de l'organisation politique à l'époque féodale. Comme ça, c'est après. À l'époque féodale. L'époque féodale, j'expliquais tout à l'heure que finalement, c'est un système où le pouvoir politique était à nouveau éclaté. Hein. Il est soumis à la vindicte de l'aristocratie guerrière, si on va par là, hein, puisque les chevaliers, les seigneurs et leurs hommes, c'est une aristocratie guerrière. Ce sont eux qui prennent le pouvoir. Par conséquent, l'État centralisé cesse d'exister dans le système féodal. Oui. Absolument. Ah, tout à fait, je vais venir là-dessus. Alors, les inventions, oui, de manière collatérale, comme la religion tout à l'heure, si vous voulez, mais au niveau de la remise en question de l'absolu religieux, c'est tout à fait certain. Mais en même temps, quand on regarde dans le détail et qu'on voit, par exemple, au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle, c'est une époque où on se remet à penser le monde, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer l'histoire du monde. Il y a tout un tas de travaux sur ces questions-là au XVIIIe siècle. L'ancêtre de la géologie fait ses premiers pas au XVIIIe siècle, c'est ça qui permet en fait de saisir la profondeur temporelle, et on essaie donc d'expliquer l'histoire de la Terre. Et quand on explique l'histoire de la Terre, on essaie d'expliquer l'histoire de l'homme. Et là, il y a un problème. C'est la Bible. Et en réalité, ce qui est intéressant de voir dans l'époque moderne, qui est donc l'époque qui se construit à partir de la Renaissance, c'est de voir qu'en fait, la manière qu'on a de reconstruire donc la vision qu'on a du monde, elle se fait contre, c'est vrai, le fait religieux, mais tout en utilisant les concepts du fait religieux. C'est-à-dire qu'on est quand même encore dans un univers où pour penser le monde, même si on critique, même si on remet en doute ce qu'il y a dans les écrits de la Bible, on va quand même utiliser les mêmes concepts, parce que dans le fond, on ne veut pas non plus être hérétique. Il y a une tension comme ça, et c'est très rigolo de voir que entre, par exemple, qui c'était ? C'est Newton et... Non, Galilée, c'est encore autre chose, parce qu'il est tout seul, il est isolé, lui. Mais c'est vrai, vous avez raison, Galilée, c'est... Mais Galilée, il est obligé d'abjurer, lui. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir plus tard, au XVIIIe siècle, comment, par exemple, quand deux savants vont s'opposer sur une théorie, pour dire que finalement l'autre est un imbécile et qu'il n'a rien compris, on va toujours, un des arguments qui va revenir, c'est hérétique. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, et d'ailleurs, ça va contre l'Église. Ce genre de choses. Alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes dans la déconstruction de l'Église. C'est comme si... ça ressemble un petit peu à l'Amérique, d'une certaine manière, d'après la Seconde Guerre mondiale, où pour discréditer quelqu'un, il suffisait de dire qu'il était communiste. Alors que pourtant, dans le discours de l'étude de la société aux États-Unis après-guerre, évidemment qu'il y a du marxisme. C'est obligé, puisque la seule discipline historique qui pense la société en fonction des classes, dans un premier temps, après ça a évolué, c'est le marxisme. Bon, et bien, à la Renaissance, la seule... doctrine, la seule philosophie qui existe et qui permette de penser le monde, c'est le christianisme. Enfin, c'est pas le christianisme, c'est le catholicisme en Europe. Ça veut pas dire qu'ailleurs dans le monde, il n'y a pas d'autre mode de penser le monde. Mais dans le monde de la Renaissance et tout ça, il n'y a que ces concepts-là. Et que donc, pour pouvoir s'affranchir de ces concepts-là, il va falloir les utiliser. Et qu'il y a aussi de la mauvaise foi. Bon, donc, c'est compliqué. Et donc, le fait de se construire en opposition à la religion... Oui, n'est pas un critère absolu pour définir donc les temps modernes. Ça fait partie d'une de ces caractéristiques, mais ce n'est pas le critère absolu. Pour moi, le critère entre guillemets absolu, ça va être la critique de l'époque médiévale comme époque où le pouvoir politique est appliqué de manière illégitime. Les seigneurs féodaux appliquent le pouvoir comme ça les arrange. Il n'y a pas de loi, il y a des coutumes. Et par conséquent, tous les passe-droits sont envisageables, il y a des crises de succession dans le pouvoir, il y a des guerres incessantes, très vite après, en plus, il va y avoir les guerres de religion. Donc c'est un contexte, le début de la Renaissance, où on va se mettre à repenser ce que serait un pouvoir qui serait légitime, acceptable par tous, et auquel tout le monde se soumettrait, y compris le prince, y compris le souverain. Donc, en gros, pour désigner ce genre de préoccupation, parce qu'il ne s'agit pas d'un courant philosophique ou d'un courant idéologique, c'est davantage des préoccupations qu'on voit apparaître chez les penseurs. Il y a la Boétie, il y a Montaigne, il y en a d'autres après eux, hein, bien sûr. C'est ce courant de pensée, cette préoccupation-là, on appelle ça l'étatisme. C'est pas, donc pas une idéologie, c'est simplement le fait de se mettre à repenser, à penser une institution qui permettrait de mettre... à peu près tout le monde d'accord, ou en tout cas au moins de garantir une paix durable par une institutionnalisation du pouvoir. Et c'est pour ça que la Renaissance se définit par Renaissance, c'est sur le point des arts, c'est effectivement faire comme on faisait dans l'Antiquité, mais c'est aussi sur le plan politique, retourner à un système qui est celui de l'État. Donc on se met à parler d'État en Europe, pour la première fois, à la Renaissance, et toute l'époque moderne va finalement être ce processus de construction d'un État centralisé, avec, comme on va dire, point d'arrivée ultime, l'absolutisme. Où là, on a vraiment un exemple de centralité du pouvoir et de contrôle total par les institutions. Louis XIV a beau dire « l'État, c'est moi », Louis XIV sans ses ministres, c'est juste un prétentieux qui ne sait pas lasser ses chaussures. Alors que le seigneur féodal, il va sur le champ de bataille, il sait manier l'épée, et c'est pour ça qu'en fait il a des hommes liges. C'est parce qu'en plus il a un pouvoir militaire qui est le sien. Donc l'époque moderne, c'est une époque de l'avènement finalement de l'État, après une très longue interruption dans l'existence de cette institution, donc depuis l'Antiquité. Donc l'État.
Monsieur ?
Oui ?
C'est juste pour savoir, vous ne faites pas démarrer l'époque moderne par la découverte de l'Amérique ?
Non, il y a des gens qui le font, hein, par Christophe Colomb et tout ça. Le problème, c'est que la découverte de l'Amérique sur le fonctionnement de l'Europe n'a aucun impact immédiat. C'est effectivement, ça fait éclater les catégories de pensée des gouvernants, hein, des élites, puis ça va stimuler la compétition entre les États politiques en Europe, hein, bien sûr, mais sur le fonctionnement interne des États européens, l'impact n'est pas immédiat. Donc pour moi, la découverte de l'Amérique, c'est comme l'invention de l'imprimerie, si vous voulez. C'est un point à prendre en compte, hein, ça va jouer son rôle, mais c'est pas finalement le seul point. S'il n'y avait qu'un seul point à retenir, ce n'est pas celui-là que moi je retiendrai pour définir les temps modernes, si vous voulez. Mais évidemment, ce sont des choses à prendre en compte. Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire que l'art, pour François Ier, on a des textes, hein, là-dessus, le fait, par exemple, de se mettre à construire dans un style classisant, au sens de antiquité, hein, le fait de se mettre à construire un peu comme construisaient les anciens, c'est politiquement une prise de position en soi. C'est de dire, regardez, nous on est moderne, on construit pas des gros machins à la gothique et compagnie. Il faut savoir que, par exemple, à Louis XIV, on a des textes où on nous raconte que la cour de Louis XIV, ils ont failli raser Notre-Dame, parce qu'ils avaient des vapeurs quand ils se retrouvaient dans des églises de type gothique. Donc on est vraiment dans un univers mental où il s'agit vraiment de on aborde finalement ce Moyen-Âge, qui, en plus pour les élites politiques de l'époque moderne, et la preuve vivante que pendant des siècles, pas l'État français, mais disons que la région France a été gouvernée par autre chose que le roi de France, si vous voulez, puisque c'était de manière régionale. Donc le fait d'utiliser un art classique, c'est se placer, c'est avoir opté pour une posture d'élite éclairée, hein, progressiste, par rapport donc au Moyen-Âge. C'est donc... L'art n'est pas art, enfin c'est pas l'art pour l'art, c'est pas l'art pour l'esthétique. Hein, c'est vraiment, dans le cadre de la Renaissance, il y a une prise de position politique derrière cela. De la même manière que c'est pour les rois de France, alors je crois que c'est François Ier d'ailleurs, là aussi, le fait de récupérer Léonard de Vinci, qui est pourchassé en Italie, et de le faire vivre en France à la cour, c'est pas simplement parce que Léonard de Vinci... C'est un génie, quoi. C'est aussi une prise de position politique pour la France à une époque où on se tire la bourre. C'est la compétition à qui sera le plus moderne entre l'Italie et la France. Donc l'art, les techniques, ben, tout ça participe du changement des mentalités dans la façon de concevoir le monde, quoi. Puis l'époque contemporaine. L'époque contemporaine... On ajoute à l'étatisme de l'époque moderne, parce que l'État ne disparaît pas à l'époque contemporaine, hein, au contraire, on ajoute à l'étatisme de l'époque moderne la construction nationale. Donc l'époque contemporaine, si elle a une caractéristique, c'est d'être nationale. je dis national, hein, je ne parle pas encore de nationalisme, hein, on ne parle pas d'idéologie, on parle de sentiment. Là, hein. C'est-à-dire donc, construction nationale, c'est-à-dire une volonté de construire une communauté de citoyens, on se met à parler de citoyens, alors qu'avant on parlait de sujets, une communauté de citoyens qui sera une et indivisible, c'est-à-dire qu'on essaye de donner du sens là où il n'y en avait pas au sein d'une population. Le peuple français se définissait pendant des siècles, peut-être comme français, mais surtout comme occitan, comme breton, comme... Et par ailleurs, très peu de gens parlaient le français. Jusqu'à la génération de mes grands-parents, on ne parlait pas français hein, en France. Donc il y a un projet, il y a un programme de construction d'une communauté une et indivisible. Alors dans le cas de la France, ça se fait dans le sens, c'est la Révolution française qui donne... Enfin, c'est la Révolution française, et en fait, au-delà de la Révolution française, ce sont surtout les guerres contre l'Europe, hein, avec la levée en masse en 92-93, quand on a toute l'Europe aux fesses, et qu'il faut se défendre, et qu'on lève près d'un million d'hommes en l'espace d'un an et demi, ce qui est du jamais vu, hein, en fait. Et on va forger, finalement, une identité nationale dans un moment de crise... où se joue finalement l'existence du pays. Après ces premiers temps de la Révolution française, il va y avoir d'autres occasions d'entretenir le sentiment national, notamment chez les jeunes hommes avec le service militaire, puisque grâce au service militaire, on obtient des droits civiques. Il y a un intéressement aux politiques du pays, parce que forcément quand vous faites le service militaire, le fait de savoir que votre pays va aller déclarer une guerre ici ou là, ça vous concerne au premier titre, hein, puisque c'est vous qui allez vous faire étriper. Au sein des études historiques de nos jours, on a beaucoup oublié ce que le fait militaire au 19e siècle avait pu jouer comme rôle dans la cohésion, ou au contraire, dans le rejet. De la cohésion nationale. Ça continue comme ça jusque dans le cas de la France, la fin du service militaire c'est 2000 ans, mais enfin ça c'est pas une limite. La France de nos jours continue d'être un État-nation. Donc si vous voulez, c'est aussi pour ça qu'on peut dire que de nos jours on vit l'époque contemporaine, c'est qu'on n'a toujours pas encore dépassé, même si on voit qu'idéologiquement depuis 45 on essaye de dépasser ce clivage-là. On n'a toujours pas dépassé la catégorie de l'État-nation. C'est-à-dire qu'on se définit toujours comme français, la citoyenneté française, on a des obligations en tant que français, qu'elles nous plaisent ou pas d'ailleurs. Oui ? Voilà, alors la liberté religieuse, c'est encore un autre problème, mais ça on va en parler parce que c'est important. La Vendée, bon, ça c'est encore plus tard, mais en fait, paradoxalement, ça valide, vous allez comprendre, enfin j'espère. Ce qui se passe, la Révolution française, en fait, ce n'est qu'après coup qu'on en fait une mythologie unifiante, si vous voulez. Dans le vif, ce qui unit, en fait... les Français à ce moment-là, qui n'existent pas. Les Français n'existent pas avant, ils se mettent à exister après, hein, au niveau de l'identité. Ce sont en fait les guerres européennes. Pas les guerres napoléoniennes. Hein. J'entends par là les guerres d'invasion que vont avoir les puissances européennes contre la France. Ça va être très court. Ah, bien sûr. Tout à fait. Mais la monarchie, bien sûr. La France est surtout divisée après Napoléon, en fait. Hein. Mais jusque au milieu des guerres napoléoniennes, parce qu'en fait, là, il y a aussi un problème d'histoire militaire, c'est que, effectivement, la levée en masse, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an et demi, on arrive quand même à recruter plus d'un million d'hommes. Et ça, on ne le fait pas qu'à la force des baïonnettes, si vous voulez. Hein. Ça se fait vraiment sur le recrutement volontaire. En l'espace de 8 mois, vous avez, c'est du jamais vu, hein, à l'échelle de l'histoire à cette époque-là. En l'espace de 8 mois, la France devient la puissance militaire la plus importante du monde. On se retrouve avec presque 1 million de soldats. Quoi. Alors, ils sont armés de fourches et de tout, hein, mais bon. Et donc ça, si vous voulez, ça marche. Le problème, c'est sur le long terme. Ce qui va se produire, c'est qu'au-delà de ces guerres, qui sont des guerres de défense nationale, finalement, Napoléon, lui, va très vite embrayer sur des guerres de conquête européenne. Ça marche dans une certaine mesure, et puis vient un moment où les gens, ils ont envie d'entrer chez eux, quoi. Et puis c'est là-dessus qu'on voit se greffer tout un tas de débats, où finalement, les royalistes, qui étaient quand même très en minorité sur le plan idéologique, se remettent à prendre du poil de la bête, parce que finalement ils disent, mais quand même, la France c'était bien quand c'était un royaume certes puissant, mais qui envahissait pas ses voisins, tout ça. Il y a tout un tas de discours qui se développent dans ce sens-là, et c'est dans ce sens-là que les royalistes se remettent à être pas populaires, parce qu'il faut pas exagérer, pas encore, mais se remettent à avoir une pertinence de discours. Puis après, Napoléon perd, et puis on passe à des systèmes politiques qui ne sont plus des systèmes de la République. Donc la République a vécu des instants extrêmement brefs, finalement. Et les prochains instants extrêmement intenses de l'histoire de la République, il va falloir attendre 1871. Donc il y a un vide de 60 ans, hein, si on veut, enfin les 50 ans, si on veut être précis, pendant lesquels on se rend compte qu'il y a effectivement un retrait du sentiment national, que le service national, on va avoir tendance à le rendre moins contraignant, parce que ça ne plaît pas aux élites politiques royalistes, justement, que le citoyen puisse être autre chose que sujet. Enfin, on reviendra hein, sur ces questions-là dans le cours quand je parlerai de l'histoire de la conscription au Japon, donc je ne veux pas trop déflorer le sujet-là. Donc, d'une manière générale, l'époque contemporaine, c'est l'histoire des réussites et des échecs de la construction de l'État-nation, mais avec quand même au bout la réussite de la construction de l'État-nation. C'est valable pour la France, c'est valable pour la majorité des pays qui se sont construits au cours du XIXe siècle, dont fait partie le Japon. Et puis donc, ça va jusqu'en 1945, avec, dans le cas de l'Europe, quand même une coupure très nette en 14-18, mais une coupure très nette qui, en fait, est surtout valable pour la France, puisqu'on se rend bien compte qu'en 1939, l'Allemagne est tout à fait prête à repartir comme en 14. Pour des raisons diverses qu'on peut expliquer, mais enfin, idéologiquement, ça prouve que là, il y a des décalages qui s'opèrent au sein du bloc ouest européen. Bon, après 45, oui, on est toujours l'État-nation, sauf qu'il y a une grosse différence, c'est que petit à petit, les empires coloniaux vont s'effondrer. Je parlerai plus tard dans le semestre de l'importance des empires coloniaux dans la manière qu'ont les citoyens de se définir. Et on voit bien que de nos jours, on est dans une phase de déconstruction de l'État-nation. On insiste de moins en moins sur ce... Enfin, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que ça a été vrai pendant un moment, et puis là, depuis quelques années, moi j'étais au Japon quand ça s'est passé, il y a un ministère, alors je ne sais plus si c'est un ministère ou une agence, de l'identité nationale, et alors je ne sais plus l'intitulé. Hein. Bon, ce qui prouve qu'on a beau être plus de 150 ans, plus de 200 ans après la Révolution française, on est quand même dans un continuum de problématiques qui continuent à se poser, hein, à intervalles réguliers. On verra les réponses qui lui seront trouvées. En soi, détruire l'État-nation à l'échelle de la perspective historique, pourquoi pas, hein. Mais la question, c'est on lui met quoi à la place, hein. Ou bien on lui met rien, et dans ce cas-là, il faut accepter qu'on revienne à des situations post-féodales. Hein. C'est pas forcément plus rigolo, hein, des milices partout, enfin, je sais pas. On peut avoir peur, hein, aussi. Bon, ça c'est... oui. Oui, bien sûr. Mais disons que oui, tout à fait. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Enfin, ce que considèrent les historiens européens, c'est qu'après la Révolution française, puis les guerres européennes, puis les guerres napoléoniennes, tout ça lance une machine qui, en fait, va sonner le glas de manière assez définitive des monarchies continentales européennes. Il y a d'autres monarchies qui vont se construire, si vous voulez, mais les monarchies telles qu'elles existaient jusque-là ne pourront plus jamais exister. Il va falloir considérer d'autres éléments à l'intérieur du système politique. La Russie est une exception de ce point de vue-là, puisque c'est quand même le dernier pays à garder pendant très longtemps un système avec le servage et compagnie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Révolution russe récupère complètement tout un tas de discours qui sont ceux de la Révolution française. Donc on est quand même dans une dans une généalogie indirecte, mais une généalogie quand même au niveau des causes et des effets, si vous voulez. Mais il ne faut pas être mécaniste non plus. Hein. Et puis on peut aussi se poser la question sur est-ce que la Russie fait partie de l'Europe. Il y a toujours eu hein, des débats hein, sur cette question-là. Hein. Géographiquement, oui, jusqu'à un certain point, mais puis au-delà d'un certain point, non. Enfin, c'est très compliqué, c'est comme la Turquie, hein, d'une certaine manière aussi. La Turquie... Mais dans le cas de la Turquie, à une époque, la Turquie, c'était la Grèce. Hein. Oui, voilà, ben, ce qui arrangerait bien les Grecs, c'est que la Turquie rentre dans l'Union Européenne, mais que les Turcs s'en aillent, quoi. Voilà, que ça redevienne Constantinople. On peut imaginer tout un tas de trucs. Ça c'est voilà en gros pour les catégories historiques européennes, pour vous brosser un tableau du système. Alors le Japon aussi a ses catégories historiques. Voilà, on y vient. Le Japon a ses catégories historiques, puis ensuite historiennes. Le Japon, en fait, il a même plusieurs strates en termes de découpage du temps. Vous avez le découpage qui existe depuis l'Antiquité et qui continue à exister de nos jours, qui est le découpage, on va dire, chronologique, au sens strict, qu'on appelle le système des Nengo, ou alors chaque fois qu'un empereur, je simplifie, chaque fois qu'un empereur change, on change le nom d'ère. Donc en soi, c'est une manière de découper le temps. Hein. Là aussi, ça n'a aucune valeur descriptive sur le plan du fonctionnement politique. Mais au moins, ça révèle des changements chez les souverains, ou des changements de capital, ce genre de choses. Et puis sinon, sur le plan de la discipline, pas de la discipline, mais disons sur le plan du sens historique, le monde a pendant été très longtemps au Japon, jusqu'en fait en 1900, divisé selon deux axiomes. Je ne parle pas de paradigme parce que ça serait trop rigide, mais selon deux axiomes. Vous aviez le monde de l'aristocratie de cour, donc une référence directe à l'Antiquité, hein, l'État antique avec la cour, les fonctionnaires, les offices, qu'on désigne par le terme de kunoyo ou de kugenoyo. Bon, là, j'ai pas mis tous les kanji, parce qu'en plus, c'est des homonymes. Ça, c'est des choses, je vous ferai une petite fiche terminologique récapitulative téléchargeable. Qui veut dire littéralement le monde du palais, le monde du fonctionnaire, hein, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, après l'Antiquité, donc on va dire à partir du XIIe et du XIIIe siècle, vous avez le Bukenoyo. Bukenoyo, c'est le monde des guerriers, donc le monde de l'aristocratie guerrière, le monde où l'aristocratie guerrière se met à prendre le pas sur l'aristocratie de cour. Donc le monde où la féodalité commence à se construire en opposition à l'État antique. C'est quoi qu'on entend là ? Ah d'accord. Donc le temps des guerriers, qui donc, lui, je vous dis, c'est le 12e, 13e siècle. Alors ce clivage, il repose sur quoi? Et qui va donc se poursuivre jusqu'à la fin du régime shogunal, donc des Tokugawa, donc jusqu'en 1867. Donc en gros, vous avez du 12e au 13e siècle, le monde des guerriers qui s'oppose au monde de la noblesse de cour, au monde des fonctionnaires avant. Ce clivage, il repose sur quoi? Il repose pas... sur le simple constat que les guerriers prennent le pouvoir sur les fonctionnaires, sur la culture de la cour. Il repose sur un clivage qui est un clivage de valeurs. Le monde médiéval japonais est un monde qui se construit en déconstruisant, en opposition, en rejetant de manière presque fanatique les valeurs du monde antique. Les valeurs de l'aristocratie de cour, par exemple, c'est la souillure. Alors, la souillure n'est pas une valeur, c'est la peur de la souillure qui est une valeur, hein, évidemment. Donc le sang, on en a peur, on ne mange pas de viande, on est obsédé par des interdits de direction, il ne faut pas aller tel jour dans telle direction, si vous voulez aller à tel endroit, vous allez aller voir le spécialiste du yin et du yang qui va vous dire, alors là, pour sortir du palais, vous passez plutôt par à droite, puis vous allez au nord, puis vous allez à l'est, au lieu simplement d'aller tout droit, hein. Bon, c'est tout un tas, c'est un complexe culturel extrêmement contraignant, extrêmement raffiné hein, aussi. Et le monde des guerriers va cracher sur cette conception du monde, d'abord pour des raisons politiques, parce qu'en fait, ces guerriers, qui sont tous issus à l'origine de l'aristocratie de cour, ce sont des gens qu'on va envoyer sur les marges de l'État antique, c'est-à-dire l'Est, l'actuelle région de Tokyo, par exemple, qui n'est pas encore une région complètement intégrée au système de l'État antique japonais. On va envoyer ces guerriers-là de manière à pacifier la région, parce qu'il y a d'autres gens qui habitent là. On va les envoyer là de manière à mettre en coupe réglée, défricher des territoires pour produire du riz et payer donc des taxes, comme ça se fait dans l'Antiquité, hein, système des impôts et tout ça. Et va venir un moment où ces guerriers qui vivent très bien tout seuls et qui vivent très bien leur originalité un peu perdue sur les marges est de l'État vont se construire en opposition finalement de la cour à Kyoto, là pour le coup, et vont finalement en arriver à un point qu'ils ne vont plus vouloir payer les impôts. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler pour la noblesse de cour, ils sont bons juste qu'à faire des simagrées dans les palais. Et partant de ce principe, petit à petit va se construire une culture, qui elle, au contraire, va jouer dans la souillure. Donc le guerrier, c'est... il est sur son cheval, il chasse, il va dans tous les sens, à l'arc, il n'a pas peur de se tartiner de sang. Le rejet ultime, ça va être l'invention dans cette société guerrière du seppuku. Le seppuku, en gros, c'est vous ouvrez votre ventre, vous sortez vos intestins, et c'est cadeau à la noblesse. Et comme la noblesse vit dans une obsession, si vous voulez, de la souillure, qui confine, c'est pas qu'il y a un problème psychologique, mais on ne peut pas imaginer pire offense, pire affront, pire hérésie. Il y a même des gens qui se suicident hein, dans la noblesse, enfin qui se jettent dans des puits, dans un palais, lorsque pour la première fois, quelqu'un de l'aristocratie guerrière, en signe de rejet et d'insubordination, va s'ouvrir le ventre devant cette personne-là. Après, on va brûler le palais parce qu'il est souillé. Enfin, il y a un côté vraiment... catatonique hein, par rapport à ça. Et donc, il y a une rupture qui est consommée sur le plan des valeurs. Et les valeurs du guerrier, les valeurs de l'aristocratie guerrière, parce que dire le guerrier, ça ne veut pas dire grand-chose, les valeurs de l'aristocratie guerrière se sont construites en rejet des valeurs de la cour. Alors, dans les faits de l'économie politique, évidemment, il faut nuancer, jusqu'au XIVe siècle, globalement, on va à peu près se débrouiller, mais à partir du XIVe siècle, c'est fini. La cour impériale n'a plus aucun pouvoir sur le gouvernement de l'archipel. Donc voilà, hein, c'est un peu comme ça qu'on divise le temps, et puis c'est tout, en fait. Hein. Et à partir de Meiji, ben c'est l'ère Meiji, et on ne sait pas encore trop bien comment se définir à partir de 1867. On va réfléchir aux catégories historiques qu'on pourrait bien utiliser. Et en réfléchissant aux catégories historiques qu'on pourrait bien utiliser, on va s'inspirer des méthodes de découpage du temps des Occidentaux. On va inventer pour l'Antiquité le terme de Jōdai, ou Kōdai, qui va donc prendre fin avec la perte de pouvoir de la noblesse de cour. Et qui est une bonne traduction du terme antiquité hein, en japonais. Je saute le Moyen-Âge, vous allez comprendre pourquoi, et je passe directement à Kinsei. Kinsei, c'est l'époque moderne, hein, c'est une traduction venant de termes européens pour décrire le monde moderne, parce que c'est une époque en réalité où on se remet également à se poser des questions sur ce que pourrait être la bonne gouvernance. Là aussi, en opposition avec le Moyen-Âge. C'est intéressant de voir que c'est à cette époque-là, qu'est l'époque d'Edo, où on va se mettre à réfléchir sur ce que serait le vrai un bon pouvoir légitime, acceptable par tous. Ils n'ont pas consulté les Européens, hein, les Japonais de l'époque d'Edo, pour se dire que ça serait bien de refabriquer un État. Non, c'est simplement des lignes de force qui font qu'à partir du XVIIe siècle et la pacification globale de l'archipel, on va se remettre à fonctionner selon des logiques centralisatrices en se disant qu'il faut à tout prix faire en sorte que le pays ne rééclate plus. C'est donc pour ça que Kinsey, c'est bien l'époque moderne et qu'elle se termine avec le début de l'époque Meiji. Et Moyen-Âge, alors on en fait quoi? Comment est-ce qu'ils l'ont décrit? En fait, la catégorie Moyen-Âge, c'est une catégorie qui n'apparaît pas avant 1909. Le terme de Moyen-Âge au Japon, de Chusei, donc, il est fabriqué en 1909 par un historien qui s'appelle Harakatsuro, sur lequel je reviendrai, qui va finalement fonder les études médiévales, hein, au sens strict du terme. Et cette catégorie d'histoire va tout de suite avoir du sens au Japon. Elle va avoir du sens dans la mesure où ça sert à se comparer à l'Occident. 1909, c'est après la guerre sino-japonaise. La guerre sino-japonaise, c'est 1894-1895. C'est après la guerre russo-japonaise, 1904-1905, qui sont toutes deux des guerres gagnées par le Japon, qui vont donner lieu petit à petit à la mise en place du dispositif colonial japonais en Asie de l'Est. Donc c'est un Japon fort. Et le Japon, non, je veux pas. Tais-toi, voilà. Et le Japon, oui, qu'est-ce que je disais? C'est agréable. Et donc le Japon va essayer de comprendre les raisons qui, sur le plan du développement historique, puisqu'on est beaucoup dans ce genre de dynamique-là, on explique la réussite ou l'échec par l'histoire et les choix historiques à cette époque-là. Le Japon essaie de comprendre pourquoi, finalement, il est supérieur à tout le monde en Asie de l'Est. Et la conclusion à laquelle va aboutir Harakatsuro, donc cet historien qui va créer le concept et la catégorie de Moyen-Âge au Japon, c'est bien sûr le Japon, comme les Européens de l'Ouest, ils ont eu un Moyen-Âge, à la différence des Chinois, qui eux ont vécu une antiquité perpétuelle. Qu'on insiste, si vous voulez, sur le fait féodal, sur la féodalité, sur le fait que pendant des siècles, un pays est gouverné et tiré à hue et à dia par une aristocratie guerrière. La comparaison n'est pas fausse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une aristocratie guerrière qui a régné sur l'Europe pendant des siècles, il y a eu une aristocratie guerrière qui a régné sur le Japon pendant des siècles. Et donc en gros, il y a eu un Moyen-Âge, c'est ça qui est vraiment la caractéristique du Japon par rapport aux autres pays d'Asie. Et si les Japonais ont une vraie caractéristique, c'est finalement le personnage du samouraï. Et en réalité, l'idéologie du Bushido, l'idéal du guerrier, tout ça, elle naît à cette époque-là. Elle ne naît pas à l'époque féodale. On n'a pas le temps de penser à l'époque féodale. Elle ne naît pas non plus à l'époque moderne de Edo, même s'il y a des guerriers avec des codes de conduite et tout cela. Elle naît dans la première décennie du XXe siècle, quand il s'agit de réorganiser tout un tas de valeurs qui étaient un peu pêle-mêle, en vrac, qu'on suivait pas, quand il s'agit de les réorganiser pour les présenter et en faire quelque chose d'absorbable dans l'idéologie expansionniste que commence à avoir le pays à cette époque-là. Oui ? Alors ça, c'est plus vieux. Oui, alors ça, le problème, c'est que le Hagakure, il a été écrit en plusieurs morceaux, en fait. Donc, le Hagakure, on va dire les éléments factuels du Hagakure, c'est très vieux, même si c'est un mix de tout un tas de choses, en réalité. C'est ça le problème, c'est que on sait que tous ces textes, ils sont écrits à un moment où on fait déjà plus la guerre, où les duels sont généralement quasiment jamais des duels à mort. Donc on est dans l'esthétisme, si vous voulez, plus que en fait dans la valeur guerrière en réalité. Ce qui est très rigolo, c'est de constater que alors que les guerriers ne se sont jamais autant revendiqués guerriers qu'à la fin de l'époque d'Edo, ils ont jamais aussi peu su se battre qu'à la fin de l'époque d'Edo. C'est normal, c'est toujours ceux qui en parlent le plus qui en font le moins.
Excusez-moi.
Oui.
Le Bushido, ça apparaît à l'époque Kindai, alors.
Ouais. Le Bushido, c'est une construction de l'époque contemporaine.
Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qui est guerrier et tout ça ?
Absolument pas. C'est quelque chose qu'on va proposer, notamment aux jeunes conscrits japonais, qu'on va envoyer faire la guerre partout en Asie, pour leur dire, toi, tu es le descendant des samouraïs, l'esprit japonais, c'est être samouraï, et donc tu vas te battre pour l'empereur, ce genre de choses. C'est, si vous voulez, c'est du bourrage de crâne idéologique.
Mais idéologique envers l'empereur ?
Voilà, ben, ça va dans les deux sens, si vous voulez. Samouraï, ça veut dire serviteur, hein, en japonais.
Non, donc, je veux dire, le Bushido, ça naît à l'époque Kindai, mais en fait, c'est quoi le sens, en fait ?
Alors, je vais en reparler, c'est pour ça que là, je suis un peu général. Le Bushido, d'une manière générale, ça insiste sur la fidélité, sur on ne discute pas les ordres, on n'a pas peur de mourir, au contraire, on recherche à mourir au combat. Et comme par hasard, le Japon fait la guerre partout en Asie. Ça tombe quand même au bon moment. Et si vous voulez, et c'est à cette époque-là vraiment hein, que c'est qu'on va utiliser tous ces arguments-là. Alors qu'en réalité, sur le plan historique, que ce soit à l'époque féodale à proprement parler au Japon, ou que ce soit durant l'époque moderne, qui est quand même une époque d'aristocratie guerrière, même s'ils ne font plus la guerre, hein, dans le cas du Japon, le peuple hein, n'a jamais été considéré comme étant potentiellement samouraï. Un samouraï, c'est un noble, hein, c'est une aristocratie. Il est absolument impensable de dire, depuis l'Antiquité jusque dans les années, à la fin du 19e siècle, il est impensable de dire que M. Tanaka Ryoichi était l'équivalent d'un samouraï pure souche. C'est un argumentaire qui va se mettre en place pour donner de l'importance, héroïser les troupes japonaises et leur donner du cœur au ventre pour aller se battre, en fait. Hein.
En gros, le Bushido, c'est une substitution...
Absolument. C'est une manière un peu pratique de récupérer les valeurs disparates qui ont pu peupler l'aristocratie guerrière pendant des siècles, de les précipiter en un concept qu'on va appeler le Bushido, qui va être mis en équation avec l'esprit japonais, hein. L'esprit japonais égale le Bushido, égale les samouraïs, égale les conscrits, allez vous faire étriper. Et ça marche très bien. Hein, ça marche très bien, ça va marcher encore plus dans les années 30. Mais on reviendra là-dessus. Donc Kinsei, hein, j'ai parlé de Kinsei, le retour sur l'État, et puis Kindai, qui est donc l'époque contemporaine, où donc, comme j'imagine que vous l'avez deviné, c'est une époque où on se met à se poser des questions sur ce que sont les Japonais, finalement. En tant que peuple, les Japonais, c'est quoi ? La première fois qu'on se pose cette question, c'est après Meiji. On ne s'est jamais posé la question avant. Oui ?
C'était juste pour deux questions. L'ère Meiji, il a duré un an ?
Non, c'est très long. C'est 1867-1868, le démarrage. C'est la première ère, la première année.
L'autre question, c'était...
Parce qu'elle est à cheval, en fait, hein, sur deux ans.
Ah, parce que je vois que c'était écrit 1867-1868.
Mais il y a un slash, non ?
Oui, c'est pas un tiret.
Ben voilà.
Ah, d'accord, ok. La deuxième question, en fait, c'était pour savoir si vous pouviez baisser un petit peu, parce qu'on voit pas les kanji de Gendai, s'il vous plaît.
C'est pas un projecteur, alors il faut vraiment que je sorte de très haut pour mettre un coup de pied là-haut. Mais... je vous ferai une fiche, ok ? Ce sera plus simple que de faire des acrobaties.
Sinon, vous pouvez pas l'écrire au tableau ?
Bah si, oui, je peux l'écrire au tableau, oui. Ouais.
Là, c'est pas l'heure,
hein, ça va.
Ils se remettent
en place. Utiliser les avantages de l'informatique jusqu'au bout, tout de même.
Après, j'ai marqué Meiji. Après, je passe au samouraï. Ça, c'est la cour.
Là, vous le voyez ?
Oui, merci.
Voilà. On va peut-être rester comme ça, alors, du coup. Tout est dans l'écran, c'est mieux. Oui. Alors les premiers samouraïs, c'est pendant l'Antiquité. Puisqu'en fait, c'est un terme shogun comme samouraï. Ça, je reviendrai sur ces termes-là. Mais peut-être que Nathalie Kwame en parlera, et comme je ne veux pas me faire gronder par Nathalie Kwame. Mais ce sont des termes, en fait, ce sont des charges. Ce sont des charges de cour. Et comme ce sont ces gens qui sont partis dans l'est de l'archipel qui après se sont émancipés, mais ils ont quand même gardé les titres que la cour leur avait octroyés. Donc samouraï, ça veut dire serviteur. Hein, ni plus ni moins. Donc c'est le vassal, si vous voulez, d'une certaine manière, hein, quand on passe dans une société féodalisée. Shogun, c'est le généralissime, c'est un général en chef des armées. C'est un peu comme dans l'Empire romain, quand vous aviez un impérator ou quelque chose comme ça, un grand général comme César, enfin, ce genre de choses. Donc shogun, pareil, c'est des titres de cour. Alors, ce sont des titres qui existent par ailleurs dans le système étatique chinois, hein, c'est pas japonais. Simplement, il n'y a qu'au Japon que ces termes ont dérivé de manière à avoir une signification dans un système féodal. Mais les termes eux-mêmes sont très 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 anciens, hein, sont très très anciens, puisqu'ils sont aussi anciens que la culture étatique à la chinoise au Japon, avec des sens différents. Et les premiers samouraïs guerriers, avec donc des valeurs différentes, comme je parlais tout à l'heure, c'est vraiment la fin du 11e, le début, le 12e siècle. Il n'y a pas de date, pouf, comme ça. Non, c'est pas le début du Bushido. Le Bushido, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puis après, vous avez Kindai, vous avez Gendai. Et Gendai, dans le cas du Japon, c'est utilisé... Ça va vite, ça. Hein. Gendai, c'est utilisé de la même manière que quand en France... On parle de temps présent, d'histoire immédiate. C'est pas une catégorie historique, si vous voulez. C'est un truc un peu vrac pour dire c'est maintenant et un peu hier, quoi. Peut-être relancer le diaporama parce que ce sera bien. Et puis là, je vais attaquer la bibliographie. Donc ça veut dire qu'en fait, il me reste un quart d'heure. Non ? C'est jusqu'à quelle heure le cours ? Ah bon, ça va. C'est parce que j'ai faim et soif. Alors j'attaque la bibliographie. Hein. Oui, hein, on peut le dire. Bon. Donc la bibliographie, elle se divise. Vous pouvez donc la télécharger, elle est mise au propre, elle est disponible. C'est pas des japonais. Hein, et donc, cette bibliographie a, si je ne me trompe pas, que je l'ai moi-même sous les yeux, ça sera mieux. Vous avez trois grandes sections, s'il vous plaît. Vous avez trois grandes sections dans la bibliographie. Vous avez une section d'histoire générale, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, donc il y a des ouvrages importants pour vous doter d'un certain nombre de clés de compréhension de ce dont on va parler cette année. Vous avez une section à proprement parler sur le Japon, donc avec des ouvrages sur l'histoire du Japon, sur le Japon. Et vous avez une section pour aller plus loin. Donc c'est une section un peu fourre-tout, dans laquelle j'ai mis un certain nombre d'ouvrages qui devraient vous être utiles à comprendre ce que c'est, par exemple, la colonisation dans d'autres pays, de manière à la mettre en regard de ce que l'on va dire sur la colonisation cette année, donc sur la colonisation japonaise, et l'année prochaine, si vous suivez le cours d'Arnaud Nanta, qui théoriquement devrait vous parler de la colonisation en deuxième année aussi. Donc, premier livre qui est souligné, donc selon ma nomenclature soulignée, ça veut dire il faut le lire. Benedict Anderson, c'est un bonhomme intéressant. Il est né en 1930 en Chine. Il a grandi beaucoup en Extrême-Orient. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il parle de l'imaginaire national, c'est-à-dire de l'identité nationale, hein, en fait, de la manière. De certaines manières qu'ont les sociétés en Extrême-Orient, certaines sociétés en Extrême-Orient, il en décrit plusieurs, la manière qu'elles ont de se construire sur le plan de l'identité après 1970. C'est intéressant parce que nous, on va voir essentiellement des cas qui sont vraiment engoncés dans le 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Benedict Anderson, lui, il vous donne un éclairage sur les mêmes phénomènes, mais à des époques plus récentes. Et en plus, c'est sur l'Asie, donc c'est assez intéressant à mettre en parallèle avec ce qui est devenu, par exemple, le Japon de nos jours, sur le plan, enfin, sur ces questions-là. C'est un livre qui se lit vraiment bien, parce qu'il est écrit d'une manière assez journalistique, journalistique au sens positif du terme. Hein. Je sais que maintenant, quand on dit « ça fait très journaliste », généralement, ça veut dire que c'est mauvais. Mais non, là, je veux simplement dire que c'est écrit avec... le propos est clair, c'est bien écrit, ça a été bien traduit en français. On prend beaucoup de plaisir à la lecture. C'est pas un livre qui est nouveau, hein, puisque je crois qu'il est sorti, c'était 1983 ou 1984, la première édition en langue anglaise. Et l'édition française que je vous propose là, vous pouvez aussi évidemment le lire en version originale, hein, si vous en sentez la capacité. Ce qui est bien, c'est que dans la version française, c'est une version revue, c'est la version revue et augmentée, avec un chapitre en plus, des commentaires en plus, sur les musées, c'est-à-dire la fonction des musées dans la conservation du patrimoine et donc la transmission de l'identité, ce genre de choses. C'est vraiment un livre à lire, qui se lit donc très bien et qu'il faut avoir lu. Voilà. Donc vous l'achetez, vous l'empruntez en bibliothèque, vous le photocopiez, vous le photographiez, vous le volez. Enfin, vous le lisez, quoi. Ensuite, c'est un ouvrage alors, que j'estime relativement indispensable, mais que je ne donne pas en lecture obligatoire. Christopher Bailey, il est professeur d'histoire, je crois que le nom de sa chaire, c'est vraiment professeur d'histoire navale et militaire. En gros, c'est la terminologie ancienne en Grande-Bretagne pour désigner l'histoire coloniale. Et ils ont gardé cette terminologie-là. Et ce livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a été bien reçu par les historiens, c'est une espèce d'histoire universelle du monde. C'est intéressant parce qu'il introduit dans sa perspective l'Asie. Puisqu'en fait, c'est un indianiste. Hein, il est spécialiste de la colonisation britannique en Inde. Et par conséquent, il prend en compte, il parle du Japon aussi, il prend en compte tout un tas de choses qui n'avaient pas pu être prises en compte jusqu'à présent dans les histoires un peu globales. Vous remarquerez au passage que le titre du bouquin, c'est « La naissance du monde moderne », alors qu'on parle de 1780 à 1914. C'est contradictoire par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est fait exprès. C'est qu'en fait, les anglo-saxons, et il n'y a que, hein, les anglo-saxons ont une manière de diviser les temps relativement récents de l'histoire qui est différente de la nôtre, sur le continent. Ils raisonnent en termes de pré-moderne et de moderne. Le pré-moderne, c'est l'époque moderne dont on a parlé tout à l'heure, hein, avec le retour de l'État, tout ça, machin. Et le moderne, c'est après la révolution industrielle, c'est-à-dire c'est les machines. Et c'est tout, quoi, en fait. Donc c'est assez simple, hein, comme manière de couper l'histoire. Le problème que ça pose, c'est qu'en réalité, beaucoup de japonologues en France n'ont pas de formation historienne, que l'influence des Américains sur les études japonaises est écrasante, peut se comprendre pour des raisons historiques, et que par conséquent, les japonologues ont tendance à reprendre la terminologie des anglo-saxons. Ça pose un problème, parce qu'en fait, quand un japonologue, donc un spécialiste de l'histoire du Japon, mais qui n'a pas de formation historienne, se met à discuter avec un collègue historien français, ils ne se comprennent plus. Parce que pré-moderne, ça n'existe pas comme catégorie, hein, en histoire en France. Et moderne, ça veut dire autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, je vous le dis pour vous, de manière à ce que lorsque vous êtes amené à lire des ouvrages anglo-saxons, vous ne soyez pas perdu par les qualificatifs qui sont employés. Ensuite, il y a un autre... je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas le terme de moderne. Il y a aussi une autre raison à ça. C'est qu'en fait, quand les anglo-saxons, traditionnellement, appliquent cette dichotomie, cette division à l'histoire du Japon, ils disent pré-moderne avant Meiji, moderne après Meiji, et le critère, c'est l'occidentalisation. Donc en gros, l'occidentalisation, c'est un peu Jésus-Christ, si vous voulez. Hein. Vous avez avant l'occidentalisation et après l'occidentalisation. Comme si un pays était moderne, plus ou moins, parce qu'il était occidentalisé ou pas. Donc moi, ça me semble être une catégorie, une manière de fonctionner qui est relativement spécieuse et assez finalement... c'est pas bien. Voilà. C'est mon avis. Ce livre me servait à rebondir sur ce fait-là, qu'il faut avoir vraiment en tête. Le notre livre, alors là il est souligné parce qu'il est très court et que je pense que bon, c'est quelque chose qui est assez utile. C'est le livre d'un politologue qui est mort, hein, qui s'appelle donc Georges Burdeau, qui laisse derrière lui une somme assez colossale de travaux sur l'État, c'est-à-dire sur l'étude institutionnelle, l'histoire de l'institution qu'est l'État. C'est un ouvrage qui est assez synthétique, qui moi me semble être relativement facile d'accès. Ça donne du matériel pour penser finalement ce que c'est l'État. Enfin, ça veut dire le terme d'État, on l'utilise tous les jours, on ne s'amuse pas forcément à se dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'était déjà l'État ?» Il y a des termes qu'on utilise comme ça sans y penser. Ce petit livre aide à faire le point, quoi, si vous voulez. Donc il est obligatoire dans la mesure où enfin, il est vraiment lisible en une demi-journée et que vous le trouverez à 1 euro d'occasion si vous ne le trouvez pas en bibliothèque. Alors ensuite, là on entre dans du très très lourd, puisque ça fait 3 volumes, donc 1500 pages. C'est tout à l'heure je vous ai parlé de Bailey, hein, et de son histoire du monde. Bailey, en gros, il a essayé de faire en plus petit, sur un intervalle de temps un petit peu plus court, et en moins bien, en fait. Mais c'est plus court. Et il y a des trucs qu'il n'y a pas dans Hobsbawm, mais quand même moins bien. Il a essayé de faire ce qu'en fait a fait Eric Hobsbawm depuis les années 70, puisque c'est des choses qui sont relativement anciennes, c'est-à-dire une espèce de grande histoire du monde. Une histoire politique, une histoire culturelle, une histoire religieuse, une histoire commerciale. C'est assez extraordinaire. Hein, comme, dire, s'il y a une série, enfin, 3 bouquins en histoire à avoir lu, pour savoir un peu qu'est-ce que c'est les 150 années qui ont suivi les révolutions, enfin, c'est vraiment ces 3 livres qu'il faut avoir lu, ça se lit bien. Mais effectivement, ça prend du temps. Vraiment du lourd au sens lourd, difficile à digérer parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Mais moi j'estime que c'est une lecture indispensable, même si je ne la mets pas en lecture obligatoire, pour la simple et bonne raison que bon, j'ai bien conscience que farcir 1500 pages en 6 mois avec les kanji et tout ça, c'est peut-être pas forcément évident. Mais gardez-le en tête. Vous voyez, il découpe. Moi je trouve que c'est assez intelligent. Hein. Il découpe son. Son propos avec l'âge des révolutions d'une part, l'âge du capital, l'âge des empires. Et puis il y a encore un 4e volume qui est sorti relativement récemment qui s'appelle l'âge des extrêmes, que moi je trouve moins bien. Ouais. Mais ça c'est des recueils de textes par contre, qui est très bon, c'est vraiment très très bon. Sur le marxisme aussi, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est très 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 intéressant. Ben, c'est vraiment, c'est un homme siècle, Eric Hobsbawm. Hein. Il est né dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelle l'Autriche-Hongrie. C'est vraiment un homme siècle. Il a vécu tous les grands changements de ce siècle. Et moi j'ai beaucoup de respect pour son travail. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant, me semble-t-il. Et de Hobsbawm, en fait, il y a surtout ça qui est très connu de lui, parce que ça a fait beaucoup parler de lui. Alors qu'en réalité, ces 3 ouvrages-là sont pour moi encore plus intéressants. Mais il y a cet ouvrage-là sur la question bien précise de ce que maintenant est devenu quelque chose d'habituel comme expression en histoire, c'est l'invention de la tradition. Par tradition, on entend ta tradition nationale, hein, bien sûr. C'est-à-dire, quel matériel les gens finissent par se donner à un moment pour s'entre-définir comme faisant partie d'une grande communauté artificielle. C'est-à-dire comment faire passer une communauté artificielle pour étant une communauté logique, une communauté naturelle. Puisque la communauté nationale, ce n'est pas une communauté qui vous est donnée comme telle. Vous êtes prioritairement dans une famille, puis dans une région, puis ce n'est qu'après que peut-être vous vous posez des questions sur les Alsaciens, si vous voulez, quand vous êtes de Toulouse. Même si j'aime la choucroute, hein, c'est autre chose. Et donc, l'idéologie nationale permet de mettre tout ça en système, si vous voulez. Et l'invention de la tradition, ça montre bien quels sont justement les ingrédients qu'on a pu mobiliser à certaines époques pour fabriquer du lien là où il n'y en avait pas, justement. L'année dernière, c'était un livre que j'avais mis en lecture obligatoire. C'était pas le cas de Benedict Anderson. Cette année, j'ai inversé, si vous voulez. Que ça ne vous empêche pas de lire l'introduction, par exemple, du livre, qui est bien, pour comprendre justement ce que c'est que cette idée d'invention de tradition. Puis ensuite, en histoire générale, encore, mais alors là, nettement, pour moi, hein, moins bien que le reste, enfin, c'est pas moins bien, c'est très différent. C'est-à-dire que René Raymond, c'est un professeur d'histoire à Sciences Po. Donc il faut écrire des livres courts. Et c'est de l'histoire politique. Donc c'est très intéressant parce que tout est lu au travers de la lorgnette de l'histoire politique. C'est dynamique, c'est intéressant, ça bouge bien. Enfin, c'est extrêmement bien conçu, même si ça commence évidemment à avoir vieilli. Hein, c'est assez ancien. Moi j'avais piqué les bouquins à mon père. Hein. Mais c'est réédité régulièrement. Et ça se lit vraiment très bien. Bon. Donc c'est pour ça que je vous les ai mis dans la bibliographie. René Raymond, il est prof d'histoire politique à Sciences Po, mais c'est un historien. Hein. C'est pas un monsieur de Sciences Po. Il a été formé en histoire. Et puis là, ça c'est du matériau historique brut. Hein. C'est Renan sur qu'est-ce que la nation ? Qu'est-ce qu'une nation ? Je ne sais pas si vous irez le lire, si jamais vous avez l'occasion de tomber sur ce texte, je pense que c'est bien de le lire. C'est un texte à l'intérieur d'un recueil de textes de Ernest Renan. Ernest Renan, dans toutes les villes de France, il y a une rue qui porte son nom. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment fait des trucs plus ou moins bien, mais après la guerre franco-prusse, c'était pas mal ce qu'il faisait, parce que ça l'a fait réfléchir, si vous voulez. Et c'est assez intéressant pour voir du dedans comment est-ce que un contemporain de la problématique de la construction nationale après la défaite contre les Allemands, contre les Prusses, comment est-ce qu'on se met à reconstruire finalement une autre définition de la nation. C'est important parce que ben, y a eu des moments comme ça dans l'histoire du Japon, hein, où il a fallu remettre les pendules à l'heure. Et c'est intéressant aussi parce que ça, je veux dire, c'est complètement différent de ce qu'est l'identité nationale en Allemagne au même moment. C'est complètement différent de ce qu'est l'identité nationale chez les Britanniques. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de variétés dans ces théories-là. Et Renan, ça se lit bien en plus. Là, ça nous concerne plus directement, si vous voulez. Puisque c'est sur l'orientalisme, alors avec un titre un petit peu provocateur, hein, « L'Orient créé par l'Occident ». C'est sur justement les représentations que se fait l'Occident de l'Orient, sur les représentations que plaque l'Occident sur l'Orient depuis très longtemps. Ça fait réfléchir, si vous voulez, sur la validité des critères, des caractéristiques que l'on applique à l'autre. Finalement, c'est un essai sur l'altérité, hein, si vous voulez. C'est comment est-ce qu'on définit l'autre ? Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que on n'est pas finalement beaucoup, quand même, souvent, dans le fantasme le plus total ? C'est un livre. Je sais pas si c'est pas 1978 sa sortie originale, mais bon, ça je me souviens plus bien. La traduction française c'est 1980, la première. Tout le monde l'a lu, tout le monde en discute depuis longtemps. Moi, c'est un livre, je n'aime pas sa prose. Hein. C'est-à-dire que c'est une prose très années 70, très revendicatrice. Ben, en même temps, c'est le premier à écrire ce qu'il écrit là-dedans. Donc, ce livre a un peu fonction de coup de pied au derrière. Et ça marche très bien. Et c'est toujours d'actualité. Hein, puisque je veux dire, quand vous lisez les médias français sur le Japon, on est partagé entre « Je suis mort de rire » et... Mais ils sont bêtes à bouffer du foin, ces journalistes. Donc finalement, ça reste d'actualité. Et un livre qui, là, pour le coup, est vraiment exceptionnel, parce qu'en fait, c'est le seul dans sa catégorie, et c'était tellement bon qu'il n'a pas été réédité. C'est le bouquin de Nora Wang. Nora Wang, elle est professeure des universités à Paris 7. Et c'est un livre qui est... que moi, quand j'étais étudiant, il m'a beaucoup servi. Parce qu'il est très synthétique, hein, et que c'est le seul livre qui, de manière, on va dire, gentille mais précise, c'est-à-dire sans simplification, mais en utilisant des formules qui sont vraiment compréhensibles. C'est le seul livre qui va vous parler en même temps, au XIXe siècle, de l'Indochine, de la Corée, du Japon, de la Chine. Ça vous fait un panorama global, si vous voulez, de la région extrême-orientale du XIXe siècle à nos jours, qui est assez unique en son genre, et qui pour l'instant est indépassé. C'est pas dépassé, il n'y a pas eu de travaux mieux que ça pour présenter tout ça. J'ai vérifié, on le trouve à 2 euros d'occasion, 2-3 euros, en cherchant un petit peu. Donc ils l'ont sûrement un à la bibliothèque, hein. Mais si vous voulez en faire l'achat, je pense qu'en cherchant un peu, vous ne devriez pas avoir de problème à le trouver. Bon, maintenant, je vous ai dit ça. Si ça se trouve, dans 3 jours, il sera à 30 euros parce que vous serez tous mis à le chercher. Mais ça, c'est le problème de l'offre et de la demande. Non, il ne veut pas avancer. Voilà. Et là, on passe au Japon à proprement parler. Ça, c'est un livre obligatoire. C'est un livre obligatoire parce qu'il est bien. Et parce qu'en fait, il est très pratique. C'est un livre, ceux qui l'auront lu l'année dernière n'auront eu aucun problème à valider, par exemple, l'enseignement de Japon contemporain, parce qu'il y avait une dissertation pour laquelle le plan de ce livre permettait de naviguer sans le moindre problème. Donc certains ont eu le nez creux, ont lu le livre et ont pris 17, d'autres l'ont pas lu et ils ont pris entre 0 et 6. Non, j'exagère. Non, mais vraiment, c'est un livre qui, sur le plan méthodologique, aide à bien comprendre la problématique qui se pose à partir de Meiji de la construction du national. Pas uniquement de l'identité nationale, hein. C'est-à-dire que pour construire l'identité nationale, on a besoin de construire une littérature nationale, une histoire nationale, enfin, tout un tas de machins qui deviennent nationaux, parce qu'avant, ils n'existent pas et qu'il faut les donner aux citoyens pour se sentir concernés. Et ça prend l'accentuation de la littérature, si vous voulez. Donc c'est assez intéressant. Avec un panorama historique par ailleurs. Vraiment, c'est un livre... Enfin, heureusement qu'il est sorti. Ça fait du bien qu'un livre comme ça soit sorti. Emmanuel Lozeran, par ailleurs, c'est un professeur des universités, ici même. Hein, vous l'aurez probablement à partir de l'année prochaine, je pense, en cours. C'est un spécialiste d'histoire littéraire. Ensuite, ça c'est plus léger, si vous voulez, mais c'est intéressant, toujours dans la rubrique de « Qu'est-ce qu'on se donne pour national ?» Là, c'est le patrimoine.
Je note ce qui est marqué.
À partir de quel moment on a parlé de patrimoine national au Japon? Comment est-ce que le patrimoine est mis en valeur? Voilà. Vous avez ce bouquin, et dedans, il y a un article de Christophe Marquet, qui est professeur ici, sur cette question-là. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça se lit plutôt bien. Lui, il doit être à la bibliothèque. Ça, c'est un article sur la colonisation au Japon qui a pour but de le réintégrer un petit peu dans les problématiques coloniales générales. C'est donc sur le Japon. Hein. Et, Arnaud Nanta, il donne des cours ici en deuxième année. Il est chercheur au CNRS et il donne des cours ici en deuxième année. Alors, pas exactement sur sa spécialité-là. C'est des cours d'histoire générale aussi. Et donc, Sipango, c'est la revue du centre ici. Donc à lire, ça se lit bien. Ça, c'est toujours Arnaud Nanta et moi, sur des thématiques, hein, toujours dans quels matériaux on va utiliser pour justifier le pouvoir au Japon au début de Meiji, quels matériaux on va utiliser pour définir l'identité des Japonais, contre quels matériaux on va définir l'identité des Japonais, c'est ce genre de thématiques-là. C'est des articles que vous trouverez dans cette revue dans Keibisu, et qui est donc disponible là aussi à la bibliothèque. Ça, c'est des gros articles, donc c'est pas forcément lisible facilement. Mais si vous avez du temps, je vous conseille d'aller y voir. Ça, encore une histoire générale. Bon, bah, Reischauer, il est très connu. Il travaille dans les services de renseignement américains pendant la guerre du Pacifique. Avant, il habitait au Japon. Il aime beaucoup le Japon. On le sent d'ailleurs dans ce livre qui a quand même vieilli. Mais il a quand même des positions. Et moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec Reischauer, si vous voulez, en tant qu'historien. C'est qu'il a vraiment des positions parfois qui sont idéologiques et qui, moi, me dérangent. Comme quand, par exemple, il explique effectivement les bombes atomiques ont vraiment eu un rôle dans... c'est-à-dire, on avait besoin des bombes atomiques pour faire en sorte que la guerre s'arrête. Ceci, en histoire de nos jours, est un contresens. Et ça fait déjà un bon moment qu'on sait que c'est de la propagande, si vous voulez. Et il revient là-dessus, et c'est très très agaçant. Vous faites abstraction de cela, l'ouvrage en lui-même est une bonne synthèse de la grande histoire du Japon. Et ça se lit bien, ça a été bien traduit. Et c'est, ouais, c'est bien dit, et c'est pas cher, parce que comme ça existe depuis longtemps, on le trouve pour vraiment pas cher. Ça, encore sur la colonisation du Japon en particulier, c'est un grand article de synthèse sur ce qu'ont été les colonisations japonaises au fil de l'histoire. C'est donc un article, hein, à l'intérieur d'un gros bouquin, certes, mais c'est un article de Pierre-François Souiri, qui a été pendant longtemps historien, enfin professeur des universités, historien ici même à l'INALCO, qui maintenant est à l'université de Genève. Alors ça, c'est un livre, alors il est souligné, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, enfin, ça ne devrait pas être une erreur, mais il est épuisé. Donc je ne peux pas vous obliger à lire des livres que vous allez peut-être avoir du mal à trouver, si vous voulez. C'est un collectif, donc c'est dommage qu'il soit épuisé, parce que du coup ça le rendait facile à lire, dans la mesure où c'était une collation de plusieurs auteurs. Et donc ça permettait de découper les lectures dans le temps, et ça rend la lecture un peu plus agréable, en fait, hein, puisque les thématiques sont variées. Jean-Jacques Tudine et Claude Hamon sont des professeurs de Paris 7. Il y en a un qui est spécialiste du théâtre, l'autre il est spécialiste de je ne sais plus quoi. Mais le livre lui-même était vraiment intéressant. Or malheureusement, Piquier, qui est donc la maison d'édition, a une politique que moi j'ai toujours eu du mal à comprendre, qui est quand le livre est épuisé, on ne le réédite jamais. Et donc du coup, il y a des bouquins chez Philippe Piquier qui valent d'occasion le double du prix qu'ils coûtaient quand ils étaient neufs. L'offre et la demande. Voilà. Michel Vier, c'est pareil, ça a été pendant longtemps le professeur d'histoire ici même à l'INALCO. Il est l'auteur de deux que sais-je, dont un qui n'a jamais été réédité mais qui était assez intéressant au niveau des idées avancées, qui s'appelait Le Japon contemporain. Pareil, ça c'est des livres qui ne coûtent rien. Hein. Puis il y a Le Japon et le monde au XXe siècle, qui lui est un manuel d'histoire, qui est assez indigeste sur le plan du contenu, parce que Michel Vier a une écriture qui c'est très dense, c'est très bon, mais c'est très 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 dense, et il faut vraiment, il faut lire le matin après avoir lu un litre de café, se pincer de temps en temps pour passer, c'est très très dense, donc ça demande une attention vraiment particulière. Mais c'est un livre dans lequel sont développés des lectures, notamment du démarrage de la guerre du Pacifique, qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui sont extrêmement fines. Puis il y a Le Que sais-je, qui est toujours réédité, on doit être maintenant en fait à la 7e édition, elle a dû sortir cette année, c'est Le Que sais-je, Histoire du Japon, hein, de Michel Vier, qui est un espèce de super Que sais-je, si vous voulez, puisque dans un Que sais-je, tout petit... On a tout fait rentrer à coup de pied, et du coup, parfois même l'interlignage est réduit de 2 points, donc on se retrouve avec des lignes. C'est assez brutal. Hein. La version la plus complète, ça doit être la 5e édition. Et après, les PUF, donc Presse Universitaire de France, lui ont cassé les pieds pour qu'ils réduisent la voilure. Et donc la dernière édition est finalement la moins grosse, si vous voulez. Oui, ça c'est obligatoire, non pas que je vais vous poser des questions là-dessus, mais c'est obligatoire dans la mesure où c'est vraiment un panorama de l'histoire japonaise. Ça va vous faire apprendre des noms, vous sensibiliser à des noms, des événements. C'est vraiment pour ça, c'est pour la culture générale, Il n'y a aucun concept sur lequel vous allez être travaillé le jour de l'examen là-dedans. Hein. C'est vraiment simplement pour le panorama. Puis pour aller plus loin, ça c'est une catégorie que j'ai rajoutée cette année, puis après je vais vous lâcher parce que là... ce sont des lectures sur, d'abord, la colonisation et les colonies. Puisque ben, dans le fait national, c'est assez important. Vous avez un ouvrage sur l'Indochine, sur la colonisation française en Indochine, donc des temps précoloniaux jusqu'à la décolonisation. C'est un ouvrage qui est unique, hein, il n'y en a pas d'autres de ce type, toutes langues confondues. Et bah, c'est remarquable, il n'y a rien d'autre à dire. S'il y a vraiment un livre à lire sur une décolonisation en Extrême-Orient, c'est celui-ci. Il y a Raoul Girardet, alors ça c'est un peu vieux, mais il n'y a pas eu de suite, c'est-à-dire que c'est le seul à avoir fait un travail sur l'idée coloniale. C'est-à-dire qu'est-ce que ça représente les colonies dans les débats en France. C'est-à-dire pas la colonisation elle-même, mais qu'est-ce que c'est pour les Français, la colonisation? Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que ça a une importance? Est-ce que les gens en parlent? Donc un livre qui déjà date de 1972, mais qui est assez extraordinaire de ce point de vue-là. Puis un livre qui est moins rigolo, mais qui est important, si vous voulez. De Daniel Lefeur, qui est un spécialiste de l'histoire coloniale du Maghreb. Il est prof à Saint-Denis, hein, et bah, sa spécialité, c'est donc l'histoire coloniale du Maghreb. C'est sur la fin, hein, 1930-1962, c'est vraiment sur la fin et les problèmes dans la gestion, si vous voulez, de la colonie algérienne. Il y a un côté très économiste, si vous voulez, dans ce livre. Et après, un livre qui est vraiment incontournable pour la colonisation dans le nord de l'Afrique, c'est ce livre. S'il y a, pareil, un livre à lire sur l'histoire de la colonisation française en Afrique du Nord, c'est ce livre. Puisque dans ce livre, on vous dresse un panorama de la situation avant des sociétés de l'Afrique du Nord, avant la colonisation française, pendant les guerres coloniales, puis les périodes différentes de pacification, puis après 1870, puis jusqu'à la fin. Hein. Donc c'est vraiment un livre qui est impressionnant de maîtrise, là encore. Puis, sur les régimes autoritaires maintenant, pourquoi sur les régimes autoritaires? Parce qu'en fait j'en ai marre d'entendre le terme « un tel est un facho »,« machin c'est fasciste », ça m'agace, « fasciste » ça a un sens. Autant l'utiliser de manière bien précise, dire que le Japon militariste, totalitaire des années 30, c'est un pays fasciste, c'est simplement ne pas connaître l'histoire. Et pour comprendre ce dont il s'agit, je vous propose deux ouvrages qui vont vous expliquer ce qu'est le totalitarisme, ce que sont les totalitarismes à l'intérieur duquel il y a le fascisme. C'est Hannah Arendt. Alors 1615 pages, c'est pas le texte sur les totalitarismes, hein, c'est une collection là aussi de textes qui sont assez fondamentaux. C'est vieux, hein, il s'agit d'une édition qui fait la recension de tout. C'est assez incontournable et assez indépassable, hein, au niveau des catégories que sont donc les totalitarismes. C'est vraiment remarquable, ça se lit très bien. Et puis enfin, qu'est-ce que le fascisme ? Bon, on ne peut pas poser la question plus directement. C'est un livre assez récent, écrit par un spécialiste du fasciste en Italie, qui s'appelle donc Emilio Gentile, qui explique, donc non pas, qui explique qu'est-ce que le fascisme, en tant aussi que avec toute son historicité, c'est-à-dire avant que le fascisme existe, pendant sa création, pendant qu'il est en exercice, et ensuite quelles ont été les interprétations qu'on a pu faire du fascisme. Et ça permet de se doter d'un certain nombre de catégories opératoires pour savoir si, alors là, tel ou tel aspect de la société totalitaire au Japon peut être défini par le terme de fascisme. Est-ce que c'est pas simplement un gros mot? Est-ce que dire fascisme en soi, ça décrit quelque chose dans le cas du Japon? Là, vous voyez, c'est une manière un peu d'affiner votre sensibilité sur ce que sont les régimes totalitaires et autoritaires qui pullulent pendant la première moitié du XXe siècle. Et voilà pour la bibliographie. Et donc, j'ai dépassé un peu le temps, et donc je vous laisse là.